Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 22 novembre 2022. Bienvenue à cette première bénédiction matinale de la semaine et on continue en fait notre étude du chapitre 11 du livre aux Hébreux et toujours sur la grande thématique qu'on a entreprise il y a bientôt 2 ou 3 mois. C'est par la foi. On en est rendu à notre 26e leçon. Et de ce que je calculais cette semaine, on devrait en avoir jusqu'à la mi-décembre. J'ai recoupé la fin de l'étude pour y aller plus dans les détails. Et ce que vous allez trouver intéressant cette semaine, c'est qu'on va voir des personnages qui ne sont pas nommés, mais auxquels on peut rattacher certains des dires, des propos tenus par l'auteur aux Hébreux. Alors aujourd'hui, le verset qui nous sert de réflexion cette semaine, Hébreux 11, le verset 33. Alors on va juste prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur, puis on fera la lecture. Deux passages. Un qui est court et l'autre qui est beaucoup plus long, qui est le passage dans lequel on se réfère ou le passage historique du fait qu'on étudie ce matin. Alors, prions et après ça, on fait la lecture. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci de ouvrir notre entendement, notre pensée à ta réflexion, à ta pensée, à ton cœur. Afin, Seigneur, que nous soyons inondés par ta connaissance, par ta sagesse, et que nous puissions, Seigneur, croître jusqu'à porter un fruit qui t'est agréable, tant de ce côté-ci de l'éternité que pour le restant de l'éternité. En toute chose, bénis ma sœur, bénis mon frère, accorde-leur ta grâce de bien entendre, de bien saisir cette parole de ce matin. Et que tu puisses, Seigneur, nous couvrir de tes divines ondées, afin, Seigneur, d'être rafraîchis par ta présence et par ta parole. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus, et tout le monde peut dire Amen. Alors, je lis les versets 32 et 33 dans Hébreux au chapitre 11, puis nous irons dans 2 Chroniques au chapitre 20. Et que dirais-je donc? Encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alors la section qu'on étudie aujourd'hui, le début du verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes. Alors assurément, il n'y a pas le nom d'un personnage précis dans cette section et dans les prochains versets qu'on va étudier. Par contre, la Bible nous montre des exemples d'hommes, de femmes, qui effectivement vont faire preuve de foi et vont devenir de vaillants héros pour le Seigneur et comme instrument d'édification pour vous, pour moi, bien des années plus tard. Alors, dans ceux qui ont vaincu des royaumes, on pourrait en nommer plusieurs, on pourrait nommer Abraham, qui à un moment donné voit son frère, son cousin Lot être kidnappé avec les rois de Sodome et de Gomorrhe et qui va se lancer à la poursuite des assaillants pour libérer son frère. On pourrait bien entendu parler de Moïse qui dans ses derniers moments, alors qu'ils sont du côté dans le désert, face au Jourdain, vont quand même commencer une conquête. On pourrait parler de son successeur, Josué, qui effectivement a mis en déroute différentes nations pour s'emparer du territoire de Canaan. On pourrait parler encore de Gédéon, qu'on a déjà vu et qui s'est élevé pour mettre en déroute Madian, on pourrait parler de Samson, on pourrait parler de David avec les Philistins, on pourrait parler de Salomon, on pourrait parler de plusieurs rois, de plusieurs prophètes que la parole de Dieu nous montre. Mais aujourd'hui, j'ai de façon éditoriale, j'ai fait un choix éditorial et j'ai décidé qu'on allait parler de Josaphat. Un grand roi, un bon roi, qui n'a pas été parfait. On ne lira pas le texte aujourd'hui, mais la fin du chapitre que nous étudions ce matin, dans 2 Chroniques au chapitre 20, vous verriez des erreurs que Josaphat a commises à la fin de son parcours, notamment en s'associant avec des ennemis pour bâtir une espèce de flotte de bateaux et ainsi s'enrichir. Mais on va regarder la bonne section de Josaphat et ce pourquoi il est reconnu aujourd'hui encore, alors qu'il va chercher la face de Dieu pour se présenter contre des ennemis qui marchent contre Israël. Excusez, j'ai un petit peu mal à la gorge. Le chauffage électrique dans la voiture ne me fait pas de bien. Donc c'est pour ça que vous me voyez peut-être hésiter un peu et je vais être obligé, durant la lecture ou après la lecture, de boire un peu. Donc 2 Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, on va faire une longue lecture de 32 versets. La Bible nous dit, après cela, les fils de Moab et d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson, à Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui l'aimait? Ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-fils, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jazakiel dit, « Soyez attentifs, tout Juda, habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tiit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et se prosternèrent en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kehathite, d'entre les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire eux-mêmes. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Aujourd'hui, je vais extraire de ce long texte, laissez-moi voir, 3, 6, 9 points importants, 9 sections de versets que je trouvais importants pour illustrer la foi, illustrer des ingrédients connexes à la foi ou illustrer des ingrédients qui fortifient la foi. Bien entendu, tout ce mois-ci, on parle de la foi, on parle de cette confiance que l'on met dans le salut qui provient de Dieu et dans la grâce qui provient de Dieu. Et Josaphat, ici, n'est pas le moindre des exemples, n'est pas le plus petit des exemples d'homme de foi. En fait, il va se lever à la tête de son peuple, Juda. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez que lorsque Josaphat, on dit qu'il est roi de Juda, c'est que Israël s'est divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord va garder le nom d'Israël, mais le royaume du sud va devenir le royaume de Juda. Et pendant un certain temps, suite à des divisions, donc le royaume va se scindre en deux. Oui, vont toujours se respecter, ne rentreront pas en guerre nécessairement l'un contre l'autre. Lorsqu'un ennemi va venir, vont être capables de se lever, de se regrouper pour combattre l'ennemi et éventuellement vont être rassemblés une fois de plus comme une seule nation, comme une seule armée, un seul pays. Ici, on voit Josaphat qui est attaqué par les Maonites et les fils d'Ammon, donc les Ammonites et les Maonites, de même que par les gens qui habitent la montagne de Seir. La façon dont la délivrance va être accordée, Dieu va dire à Josaphat, après sa plaidoirie devant le Seigneur, il va dire à Josaphat, présente-toi à tel endroit, juste à l'embouchure du désert, et tu vas être capable de voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Et la délivrance se manifeste par le fait que les fils d'Ammon et les fils de Maonite, donc les Maonites et les Ammonites, vont s'unir, se liguer contre leur troisième complice, les habitants de la maison de Séir. Et lorsqu'on dit qu'ils vont détruire ou vouer par interdit les habitants de la montagne de Séir, c'est qu'ils les exterminent, ils les tuent. Mais après avoir tué leur acolyte, leur complice, les deux peuples restants vont retourner l'arme les uns contre les autres et les fils d'Ammon et les Maonites vont s'entretuer à un tel point où les trois ennemis, ceux qui habitent la montagne de Séir, les Ammonites et les Maonites plutôt, vont s'entretuer et il ne restera plus personne à la fin pour se lever contre Josaphat. Alors c'est comme si la confusion s'empare du camp ennemi, commence à s'entretuer et par la suite ne sont plus qu'une proie laissée morte au sol contre Israël qui va aller donc dilapider le camp, s'approprier des richesses. Une des raisons qu'on pourrait historiquement invoquer quant à cette zizanie qui a régné dans le camp des trois partenaires, c'est que voyant les richesses, puisqu'il y en a de nombreuses et que ça va prendre 3 jours pour rassembler tout le butin, ils vont même en laisser derrière. Donc voyant les richesses qui sont dans le camp, probablement que les uns après les autres ont eu de l'avardise et puis se sont ligués les uns contre les autres dans le but d'être finalement le propriétaire de l'ensemble de ce butin. Ça va les amener à leur perte et Israël va en bénéficier. Alors, 12 versets que je veux souligner avec vous. Le verset 3 tout d'abord. La Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Le premier point pour nous aujourd'hui, c'est que la foi va nécessiter une poursuite de la présence de Dieu. Très souvent, ce qui se passe lorsqu'une problématique se lève, et on s'entend qu'ici, c'est une problématique majeure. C'est trois peuples beaucoup plus nombreux qu'Israël ou que Juda qui se lèvent contre le camp de Juda et qui veulent les exterminer. Et au lieu de céder à la panique et au lieu de chercher eux-mêmes à faire d'autres alliances avec d'autres armées et de se dépêtrer de cette situation difficile, non, ce qu'ils vont faire, à l'instar de Josaphat, c'est que dans leur frayeur, même dans leur peur, ils vont avoir le réflexe de chercher l'Éternel. Donc la foi devrait nous pousser à poursuivre l'Éternel. Au lieu de céder à la panique, au lieu de céder au réflexe primal qu'on peut avoir à l'occasion, qui est d'essayer de nager par soi-même, de se débattre dans l'eau pour ne pas se noyer, Josaphat s'est tourné vers l'Éternel. Donc la foi est intimement liée à la poursuite de la présence de Dieu. Et ça devrait être initié non pas simplement lors du combat, non pas simplement lors de l'épreuve, mais déjà avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. J'explique souvent que lorsque la tempête tombe sur nous, il y a tellement de tourbillons qu'on en perd la tête. Et il est important de retourner donc à des pratiques de base de notre vie chrétienne, de notre foi, de notre vie de foi, en se tournant vers Dieu. Mais si on n'a pas l'habitude de se tourner vers le Seigneur quand ça va bien, ce n'est pas nécessairement lorsque les choses vont aller mal qu'on va avoir ce premier réflexe d'aller vers le Seigneur. La plupart du temps, les gens vont se tourner vers un tas de choses palliatives pour essayer de se dépêtrer par eux-mêmes. Josaphat va se tourner vers l'Éternel. Au verset 4, et c'est même le verset 3 qui conclut là-dessus en disant, « Il publia un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Il y a un principe important dans ce verset-ci. On voit que ce n'est pas simplement Josaphat qui va jeûner, que ce n'est pas simplement Josaphat qui va chercher la face de l'Éternel, mais que c'est l'ensemble du peuple qui va venir de partout dans le territoire de Juda pour s'assembler et chercher la face du Seigneur. La foi est aussi cultivée, la foi est aussi entretenue et augmentée par le culte commun, par la proximité que j'ai avec mes frères et mes sœurs en la foi. Voilà pourquoi l'importance à notre époque de la compréhension de l'Église, l'importance de saisir que l'Église est un milieu de partage, mais aussi un milieu d'encouragement, un milieu où la foi commune se voit se développer par notre communion, notre partage et notre fraternité que nous maintenons les uns avec les autres. Ici, la foi va être encouragée par monsieur qui vient de tel village, par madame qui vient de tel autre village, par cette famille qui arrive de telle contrée éloignée dans le territoire et qui se rassemble en ce moment difficile pour invoquer, pour chercher la face de Dieu, pour louer le Seigneur, pour prier et intercéder en faveur de la nation. Donc, il y a une culture et un entretien commun de la foi. La foi n'est pas simplement une question individuelle. La foi est aussi une question commune, est aussi un fait de communauté. Il y a un communautarisme qui doit se développer au sein du peuple de Dieu. Rappelons-nous, Jésus n'a jamais envoyé ses disciples seuls, les uns indépendants des autres. Il les a toujours envoyés deux par deux. Et lorsqu'on voit même par la suite les pratiques de l'Église locale, pensons tout simplement à Paul. Paul ne va pas voyager seul. Paul aura toujours des équipes autour de lui. On voit d'abord Paul et Barnabas, puis Paul et Silas. Mais c'était davantage que Paul et Barnabas, puisqu'il y a Jean-Marc qui les accompagne. Par la suite, il va y avoir Timothée, il va y avoir Tite, il va y avoir Démas. Donc des gens qui se joignent à Paul pour faire avancer l'œuvre. La foi et l'avancement du royaume de Dieu et la culture de la foi est aussi une chose commune. Combien de fois on vient à l'Église et le témoignage de nos frères, de nos sœurs, le partage avec nos frères et nos sœurs viennent cultiver, viennent faire croître notre foi. Voilà pourquoi le vendredi soir, lorsqu'on a nos réunions de prière, on a pris cette habitude d'avoir un temps aussi d'action de grâce où les gens disent « Merci Seigneur pour telle et telle chose. Merci Seigneur pour telle action de ta part. » Parce qu'en écoutant les réponses que Dieu a accordées à un frère et à une sœur, ça cultive, ça bonifie, ça fait croître la foi des uns et des autres. Alors le verset 3 nous disait « Il faut poursuivre la présence de Dieu. » Le verset 4 nous dit que la foi doit être entretenue, doit être cultivée de façon commune et pas strictement individuelle. Maintenant, les versets 5 à 9, c'est notre troisième point. Verset 5 nous dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Passage intéressant. Ici, Josaphat va faire référence à toute l'histoire de la nation d'Israël, depuis ses tout débuts avec Abraham, jusqu'aux époques plus récentes sous Salomon, où on va bâtir le temple. Mais ils vont faire allusion non seulement à Abraham, ils vont faire, ici Josaphat va faire allusion à l'époque de la conquête, de la sortie d'Égypte et de la conquête avec Moïse, puis avec Josué, vont faire référence à cette construction du temple sous Salomon et aux promesses qui vont être invoquées ce jour-là. Il fait référence à cela. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Une fois, j'entendais un chanteur chrétien que j'aimais bien à l'époque et qui présentait un chant sur Josaphat. Et il disait, ce que j'aime de Josaphat, c'est que lorsque le problème est arrivé, Josaphat n'a pas eu à tourner à droite, à gauche, à avancer, reculer dans la parole de Dieu, en faisant tourner les pages, pour éventuellement tomber sur le verset qui cadrait avec sa situation. Non, Josaphat connaissait son Dieu, connaissait toute l'histoire de son peuple, donc par conséquent, connaissait la parole de Dieu. Puisque les faits d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et tout ça étaient recensés dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu qu'on appelle le Pentateuque. Si Josaphat peut ici référer, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu. Et pour nous, l'enseignement que ça nous donne, c'est que la foi est aussi basée sur une connaissance préalable de Dieu et de sa parole. Assurément, Dieu peut se révéler à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Et il l'a fait avec nous tous lorsque nous sommes venus à lui. Mais à un moment donné, lorsqu'on parle d'avoir une foi qui est fervente, une foi qui est en forme, une foi qui est en santé, mais cette santé-là est apportée notamment par une question de connaissance de Dieu et connaissance de sa parole. Josaphat ne s'est pas mis en règle avec Dieu le jour où les fils d'Ammon et les Maonites se sont levés contre lui, ou les gens de la montagne de Séir se sont levés contre lui. Josaphat connaissait déjà son Dieu. Malheureusement, bon nombre de croyants aujourd'hui ne se préoccupent de ce que dit la parole de Dieu que lorsque les choses ne vont pas bien. Et voilà pourquoi on a des gens qui vont tourner à droite et à gauche et à droite et à gauche pour essayer de trouver un verset qui cadre avec leur situation. Parce que lorsqu'ils étaient dans la période de calme, de quiétude, ils n'ont pas pris le temps de bien préparer la tempête ou le temps de tempête qui pouvait venir ultérieurement. Donc la foi, oui, se cultive de façon commune, mais la foi vient aussi de notre connaissance préalable de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut donc dire que notre foi découle de ce que Dieu dit. Notre foi découle de ce que la parole de Dieu dit. Si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, je vais forcément avoir une foi chétive. Si je n'apprends pas à connaître Dieu dans sa parole et dans ce qu'il nous présente de lui à travers sa parole, lorsque la tempête arrive, je n'aurai pas l'assise nécessaire pour ma foi afin que celle-ci maintienne le cap. Je risque de chavirer tout simplement parce que préalablement, je n'ai pas pris le temps d'apprendre de connaître Dieu et par conséquent sa parole. Le verset 12, c'est notre prochain point. Or notre Dieu n'exerce, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, et nos yeux sont sur toi. Ici, on a un autre point important. Notre foi va être exacerbée, va être fortifiée par notre admission, notre confession de notre incapacité et de notre faiblesse. Ici, Josaphat arrive à ce point où il dit à Dieu, regarde, on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire contre ceux qui s'amènent contre nous. Nous n'en avons pas la force. Et il admet la faiblesse de Juda, la faiblesse de la nation. Il admet que les ressources manquent, mais nous nous tournons vers toi. C'est vers toi que nos yeux se portent dans notre faiblesse. La foi est honorée par Dieu lorsque nous confessons effectivement notre incapacité et notre faiblesse. Je dis parfois, on se démène par nous-mêmes et on tente de faire les choses par nous-mêmes et on prive à cette occasion que Dieu puisse agir. Vous savez que lorsqu'on veut essayer de sauver quelqu'un qui se noie, on dit à la personne qui est en train de sombrer, arrête de te débattre. Laisse-moi te saisir. Il y a même des fois où on doit donner un bon coup à la personne, soit pour l'assommer ou pour la faire revenir à ses sens, pour lui dire, regarde, je suis là, je vais t'amener. Et parfois, effectivement, un secouriste, un sauveteur, va devoir faire usage de force envers la personne qu'il veut sauver pour que la personne s'abandonne au secours qui lui est apporté. Malheureusement, très souvent, on va se débattre à un tel point où Dieu nous envoie le secours, mais on est occupé à autre chose. On devrait avoir cette sagesse qui émane sur Josaphat, ou qui émane de Josaphat plutôt, et cette sagesse qui lui fait dire dès les premiers instants, nous ne sommes pas capables. Il n'a même pas tenté de se présenter contre les ennemis. Son premier réflexe a été d'admettre sa faiblesse et d'admettre qu'il a besoin de Dieu. Notre foi est poussée vers l'avant. Notre foi va croître par notre confession de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre manque de puissance et de notre besoin viscéral de Dieu. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cet enfer, présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. On se présente devant l'Éternel, on exprime notre faiblesse, mais lorsqu'il nous dit de nous tenir quelque part, ben la foi doit nous pousser à nous tenir à cet endroit-là. Même si on ne voit pas encore la délivrance de Dieu, même si on ne voit pas encore le salut, même si on ne voit pas encore la victoire, mais on s'y tient, on y va. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Il y a trop de gens qui invoquent le Seigneur, qui prient le Seigneur, mais que lorsque le Seigneur leur dit, ben va à tel endroit, ils disent, non Seigneur, fais autre chose, fais-le différemment. On invoque le Seigneur pour qu'il agisse. Et quand il dit, présente-toi à cet endroit et vois comment je vais agir, on dit, non, non, Seigneur, fais-le sans moi, fais-le pour moi, fais-le sans que j'aie à me présenter. Josaphat a accepté de se présenter là où Dieu lui demandait de se présenter. Ce matin, tu as peut-être une situation compliquée, une situation difficile. Ma question pour toi ce matin est de savoir si Dieu te demande de te présenter quelque part, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu seras au rendez-vous? Ou tu veux dicter à Dieu la procédure? Seigneur, bénis-moi, mais de telle manière. Seigneur, secours-moi, mais de telle manière. Seigneur, interviens, mais selon telle méthodologie. Ou tu te présentes devant lui en disant, Seigneur, effectivement, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne sais pas comment faire. Je te fais confiance. Et te faisant confiance, je ferai tout ce que tu me demanderas. Là où tu me le demanderas, au moment où tu me le demanderas, de la manière que tu voudras que je le fasse, je ferai tout cela. C'est le grand défi pour nous aujourd'hui. On verra les autres points demain. Il est déjà 9h05. On va s'arrêter là et on continuera donc notre étude de Josaphat demain matin avec les versets 18, 19 et 21, 26 et 32. Alors sur ce, prions et après ça, je vous laisse aller. Merci Seigneur pour cette histoire de Josaphat, pour cet homme qui dirigeait Israël avec une main fortifiée par ta présence, fortifiée par sa foi, fortifiée par une connaissance de toi. Seigneur, il poursuivait ta présence. Pas simplement quand les choses allaient mal, mais il te connaissait et il te servait. Et il était un homme à l'instar de ses grands-pères ou de ses illustres ancêtres, tels que David, Salomon, étaient des hommes qui te connaissaient. Alors je prie effectivement, Seigneur, que nous puissions poursuivre ta présence, que nous puissions chercher cette présence. Seigneur, on comprenait aussi que la foi s'entretenait par la communion fraternelle. Alors je prie, Seigneur, aujourd'hui d'être une source d'inspiration pour ma sœur et mon frère, comme tu places des gens autour de moi pour être des inspirations et des encouragements et des fortifications pour ma foi. Permets, Seigneur, que ma sœur puisse me donner des nouvelles forces au niveau de ma foi, que les témoignages de victoire de ma sœur soient des encouragements pour moi, que les témoignages de bénédiction de mon frère soient des vitamines spirituelles pour que ma foi soit fortifiée. On prie, Seigneur, de ne pas négliger ta parole, sachant, Seigneur, que notre foi se nourrit de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors je prie, Seigneur, qu'on ne cherche pas le verset adéquat lorsque les situations vont mal, mais qu'on te connaisse d'avance pour ne pas sombrer le jour de la tempête, pour ne pas être ballotté par les vents et les flots lorsque la tempête se lève, mais qu'on notre foi soit assise sûrement, solidement sur ta parole. Je prie, Seigneur, que nous puissions aussi arrêter de nous fourvoyer nous-mêmes en pensant que nous avons ce qui est nécessaire. Un peu cette vieille pensée du monde qui disait à l'époque « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Assurément, Seigneur, on a notre part à jouer, de nous tenir là où tu veux qu'on se tienne, d'aller en direction de là où tu veux nous mener, d'être au moment précis où tu nous veux dans un endroit, d'y être, donc de se soumettre à ta volonté, mais aussi, Seigneur, en admettant que tout seul, nous ne pouvons rien, que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne connaissons pas suffisamment. Alors Seigneur, nous humilions devant toi et confessons notre incapacité, en sachant Seigneur que c'est dans notre faiblesse que nous devenons forts. Et je prie Seigneur que si tu fixes un rendez-vous à ma sœur ou à mon frère, quel que soit l'endroit, il s'y présente. Nous ne voulons pas te dicter comment faire, nous ne voulons pas te dicter la procédure à suivre. Reconnaissant notre faiblesse, nous te disons simplement, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, pour les raisons qui sont les tiennes, nous nous y soumettons totalement, délibérément et consciemment. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin. En ton nom nous avons prié. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va continuer demain avec le verset 18, comme je disais, et on poursuit donc notre étude de Josaphat demain matin. Sur ce, bonne journée, et puis on se retrouve demain. Au revoir tout le monde.